Alors nous allons continuer le message que j'ai commencé dimanche. Alors juste un petit conseil ou un encouragement. On a vécu de belles choses dans la parole de Dieu, je crois, depuis le mois d'août. On pense évidemment au camp d'été ou la série sur la sagesse, mais je dirais même le culte du dimanche matin sur le fait de préserver ce qui est beau, qui à mon avis, au niveau de l'onction, à préparer tout le reste de la semaine. Donc c'était un culte vraiment important et je remercie Dieu pour ce qui s'est passé ce dimanche matin là. Et puis aussi le message de dimanche où j'ai abordé, donc, et je vais poursuivre sur ce thème. Donc je vous disais, je vous encourage, si vous n'avez pas pu écouter certains messages, à le faire pour rester dans le fil un petit peu de ce que Dieu est en train de faire ces dernières semaines au sein de notre assemblée et au sein même des églises francophones. Donc dimanche, j'avais abordé plusieurs choses, mais le thème principal consistait à dire que nous avons parfois du mal à trouver un point d'équilibre entre ce que Dieu a fait pour nous et qui nous a été donné de façon inconditionnelle, et au plus, ça nous a été donné parce que Dieu a été capable de nous offrir ce qui nous a été donné, à savoir le salut, la régénération et même la résurrection. C'est-à-dire que la résurrection nous a été donnée, même si expérimentalement nous ne sommes pas encore ressuscités, mais nous avons été bénis de toutes bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Christ. Et donc ça, ce sont des assurances et des promesses que nous avons reçues. Et puis d'un autre côté, il y a la responsabilité du croyant qui est de marcher dans ce que Dieu lui demande de faire, c'est-à-dire de ce qu'il place devant lui. Et parfois, on a du mal à gérer ce qui peut apparaître comme une contradiction, parce que d'un côté, on n'a rien à faire, tout est accompli, c'est Christ qui a tout fait, et en même temps, nous avons à faire. Et donc, on a du mal à gérer ça. Alors, parfois, on s'arrange, c'est-à-dire que certains rentrent, enfin, ils sont peut-être pas antinomistes, en tout cas avancent en direction de l'antinomisme et qui consiste à dire, bah, finalement, Dieu m'aime, Dieu m'a sauvé, j'ai l'assurance de mon salut, et puis finalement, ce que je vis n'a pas tellement d'importance. Alors évidemment, on est bien conscient que de pécher comme si on ne connaissait pas le Seigneur n'est peut-être pas possible. Alors on essaye, malgré les tentations, de ne pas vivre selon le train de ce monde, et en soi, c'est louable. Néanmoins, on accepte des compromis parfois, en se disant, voilà, je sais ce que le Seigneur me demande dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel service, dans telle ou telle vocation, dans tel ou tel comportement, dans la façon dont je gère mon emploi du temps, dans la façon dont je me comporte, la façon dont je parle. Donc on sait certaines choses, mais en même temps, on n'avance pas dans la direction divine parce que on n'a pas envie, on garde une provision pour la chair. Et on s'appuie aussi sur le fait que c'est rassurant de savoir que de toute façon, on est du côté de Dieu et on n'a rien à craindre. Ou alors, l'autre attitude, c'est de prendre les directives et les commandements de Dieu ou les recommandations de Dieu en oubliant notre position et finalement de rentrer dans une forme de légalisme où là, on vit dans la culpabilité, sous le regard des autres, dans un système de comparaison, et ce qui n'est pas non plus évidemment la volonté de Dieu. Ça peut être l'apparence de la piété sans en avoir la force. Et donc, nous avons besoin de vivre un équilibre qui ne peut nous être donné que par la parole de Dieu, et on a besoin d'être encouragé en cela. Alors, je m'étais attardé, et j'avais fait une légère exégèse de Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13, où il est parlé justement de travailler à notre salut, ça c'est au verset 12, et j'avais expliqué que travailler à son salut ne consistait pas évidemment à se sauver soi-même, mais c'est travailler à ce que nous avons déjà. Et donc, à partir du moment où nous avons reçu un héritage et une position, on doit avancer dans la direction que le Seigneur veut pour nous, à savoir, selon Romains 8, ressembler à Jésus-Christ. Et le but du salut, c'est de devenir comme Christ. Alors, en Christ, nous sommes parfaits, mais sur la terre, on doit aller dans une certaine direction parce que le corps, la chair est attachée à la poussière et le Saint-Esprit qui est en nous veut nous diriger vers les choses d'en haut. Et donc, c'est à nous de faire des choix et d'avancer dans la bonne direction. Et au verset 13, et c'est là où on voit aussi ce point d'équilibre glorieux, je dirais, il est dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette production du vouloir et du faire est plus liée à un côté émotionnel de l'existence, c'est-à-dire que Dieu va agir dans nos émotions, il va nous donner l'envie de le faire une fois qu'au verset 12, on aura pris la décision de faire. Et donc, au verset 12, on n'a peut-être pas encore l'envie, on a peut-être même envie de faire le contraire parfois, mais parce que c'est écrit, nous obéissons par la foi, donc nous travaillons à notre salut, c'est ce que nous devons faire au verset 12, et une fois que nous avons pris cette décision, on a Dieu qui intervient, et là, il produit en nous le vouloir et le faire, c'est-à-dire que le fait d'être en accord avec Dieu nous donne la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu dans notre vie. Un exemple qui me vient à l'esprit et qui pour moi, dans ma vie personnelle, est vrai, et quand j'en discute des fois avec certains frères et sœurs, ils disent la même chose, si on prend le thème de l'évangélisation par exemple, très souvent on n'a pas envie d'y aller, très souvent on a d'autres choses à faire, il y a comme une... Je n'ai pas une centaine de démons sur les épaules, là, et puis, voilà, on n'a pas envie. Mais nous y allons par la foi. Et puis, une fois que nous sommes sur place, on n'a peut-être pas envie d'aborder une personne, on n'a peut-être pas envie de distribuer des tracts. Mais nous obéissons par la foi. Et une fois que nous avons commencé à faire cela, et qu'on commence à avoir des contacts et qu'on parle du Seigneur, on se régale de le faire. C'est-à-dire que cette lourdeur disparaît complètement. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais ce vouloir et ce faire ne se discernaient pas, ne se voyaient pas, parce que autour il y avait comme une carapace qui est l'énergie de la chair, le prince des ténèbres qui agit contre l'évangélisation, le système de ce monde qui agit aussi contre l'évangélisation et qui appelle ça du prosélytisme. Donc il y a toute une trinité diabolique contre nous, mais une fois que nous avons décidé, parce que nous croyons que c'est la volonté de Dieu de le faire, parce que comment entendront-ils si personne ne leur annonce, dit Paul en Épître aux Romains, nous obéissons par la foi, verset 12, nous travaillons à notre salut, c'est-à-dire que nous commençons à nous comporter comme le Seigneur le faisait lorsqu'il était sur la terre, c'est-à-dire qu'il il annonçait le royaume de Dieu en permanence. Vous imaginez Jésus se taire sans péché, mais il ne dit rien. Ça n'a pas de sens. Sa vocation a été d'annoncer le royaume de Dieu, et ça nous a été aussi confié, c'est l'Église qui est le porte-drapeau du royaume de Dieu. Donc voilà ce que j'avais dit un petit peu dimanche dernier. Donc d'un côté, en 2 Timothée 1:9, on voit que nous sommes sauvés et qu'on a une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son dessein. Donc c'est Dieu qui a un dessein, et ce ne sont pas nos œuvres. Et en même temps, en Philippiens 2, on doit travailler à notre salut. Et je vais vous montrer ce soir d'autres passages où nous avons à la fois une assurance et en même temps une responsabilité. Et c'est ça que j'aimerais maintenant, enfin je l'ai dit déjà un peu dimanche, mais j'aimerais m'attarder un peu là-dessus, c'est que ce que nous avons reçu ne nous dégage pas de nos responsabilités. C'est pas parce que Dieu a tout fait d'un côté que nous on n'a rien à faire. C'est pas parce que lui a été responsable de notre salut que nous sommes nous des irresponsables. La vie chrétienne consiste à prendre ses responsabilités. Vous savez, le libre arbitre a été donné à l'être humain et c'est une énorme responsabilité. Et c'est pas parce que Dieu a mis en place le salut qu'il a enlevé à l'être humain le libre arbitre et le sens des responsabilités. Donc nous avons des responsabilités à avoir et à assumer. Ce qui d'ailleurs, la responsabilité engendre souvent de la créativité. Si par exemple, je me sens en tant que père responsable de mon enfant, il va peut-être se passer dans ma vie ou dans la vie, dans le monde en général, plein de situations que je n'avais pas prévues en ayant un enfant. Mais au fil des années, s'il y a des situations imprévues qui arrivent, la responsabilité en tant que père va me donner de la créativité. Parce que, en revanche, si je me sens irresponsable, je ne vais pas chercher des solutions, je ne vais pas être créatif. Et donc, c'est la même chose dans plein de domaines. Imaginons un médecin qui doit soigner un patient. il a logiquement besoin de tel ou tel médicament, tel ou tel outil, tel ou tel compresse, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut en théorie, et je dirais même en pratique. Mais lorsqu'en pratique, on n'a pas tous ces ustensiles, si on n'a pas tous les médicaments, le médecin qui se sent responsable va essayer de trouver des solutions pour pallier au manque. Et donc, il va être créatif. Et combien de vies ont été sauvées dans des situations improbables? Tout simplement parce que quelqu'un a fait un geste à un moment donné ou a trouvé un outil de remplacement. Bref, il a pris une décision et ce qui était lié à une créativité, elle-même liée à une responsabilité. Et donc, la responsabilité nous donne vraiment plein de solutions. On sait très bien aussi que des pilotes d'avion, par exemple, qui ont fait des essais, vous savez, sur des logiciels de simulation, etc., parfois, dans les programmes, on prévoit des accidents. Et puis, le pilote, il échoue il n'arrive pas à trouver une solution, et puis, dans le logiciel, l'avion se crache. Mais la même personne peut se retrouver en situation réelle et là avoir une créativité, je dirais, développée, enfin surdimensionnée, tout simplement parce qu'il est en situation réelle et il se sent responsable des 300 personnes qui sont à l'arrière de l'appareil. Et donc on voit ça en permanence. Et donc ça, c'est un point important. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne correctement, on ne peut pas être motivé par l'amour de Dieu, on ne peut pas être motivé par le plan de Dieu si on ne discerne pas que nous avons une responsabilité. C'est pareil dans l'Église. Lorsque des gens se sentent pas responsables de leur propre Église locale, ils viennent, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils se plaisent, ils ont peut-être quelques amis dans l'Église, mais ils se sentent pas responsables. Du coup, ils ne voient pas où peut être leur place, ils ne sont pas disponibles. En revanche, lorsqu'on se sent responsable de son assemblée locale, on s'investit dans l'assemblée locale et il y a une créativité. Donc, il faut jamais oublier ça. Nous ne sommes pas des pions, nous ne sommes pas des pantins, nous sommes des personnes responsables qui avons un libre arbitre, qui pouvons faire des choix. Et souvent, les gens pensent qu'ils ne peuvent rien faire, tout simplement parce que ils n'ont pas confiance dans le fait que ce sont des gens responsables et à qui il est donné confié un mandat. Et donc, c'est ce mandat que nous devons assumer. On doit être responsable de ce que nous faisons et assumer ensuite les choses. Alors, là, on va voir ensemble quelques versets, et notamment Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il est dit, par exemple, en Éphésiens chapitre 2, verset 6, donc là, c'est un verset qui nous parle de l'œuvre de Dieu, où nous n'avons rien à faire. Il est écrit, « Il nous a ressuscité en parlant de Dieu, il nous a ressuscité ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc là, typiquement, c'est un verset qui parle de la position, qui est même pas expérimenté complètement, puisque notre corps n'y est pas. En revanche, spirituellement, mon esprit est dans les lieux célestes. Mon esprit est assis en Christ. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je suis conscient de cette position, même si mon corps est ici. Mais comment être motivé ou comment expérimenter cette vérité? Paul en parle dans une autre épître, c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 1. Que dit-il? Il dit, si donc, et c'est intéressant, regardez même en français, c'est bien traduit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc là, il parle encore une fois de la position. Hein, si vous êtes ressuscité, c'est pas alors qu'un jour vous allez ressusciter. Vous voyez, c'est pas, allez, prenez vos responsabilités et pensez au fait qu'un jour vous allez ressusciter. Non, non, il parle là de la position, pas de l'expérience. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, donc ça c'est l'œuvre de Dieu, il nous a ressuscité avec Christ, partie B du verset, responsabilité du croyant. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et c'est là où nous avons une responsabilité à prendre. J'ai une difficulté dans ma vie, je dois chercher les choses d'en haut. Qu'est-ce que Dieu pense de la situation? Comment rencontrer la sagesse de Dieu? J'ai telle ou telle attitude, est-ce que c'est lié à ma position? Non, peut-être. Peut-être que je suis dans la chair. Eh bien, je vais chercher les choses d'en haut. Je viens de commettre un péché, j'ai l'impression de, je me suis mis en colère, je me suis énervé, je suis dépressif, voilà, j'ai prononcé une parole qu'il ne fallait pas, voilà, j'ai commis un péché. Je vis dans la culpabilité, je me sens mal à l'aise, j'ai honte, j'ai envie de me cacher dans un buisson comme Adam en Éden. Qu'est-ce que je dois faire? Je cherche les choses d'en haut. Et les choses d'en haut me disent que je suis pardonné, que je suis aimé en Christ, que si je confesse mon péché, il est fidèle et juste de me le pardonner. Donc, je cherche les choses d'en haut, dans la situation que je suis en train de vivre. Donc, d'un côté, j'ai la position d'enfant de Dieu. Je suis un héritier, il n'y a aucun doute là-dessus. Cet héritage ne sera pas enlevé. Mais dans mon expérience, ma responsabilité consiste à chercher les choses d'en haut. Là, lorsqu'il y a le « si », c'est « si vous êtes ressuscité avec Christ », sous-entendu, nous le sommes, bien entendu, nous sommes chrétiens. Ben, si je suis chrétien, si je suis ressuscité avec Christ, une autre pensée, dans Colossiens chapitre 3, versets 3 et 4, il est écrit « car vous êtes morts », là aussi, hein, c'est l'œuvre de Dieu. Moi, dans mon expérience, j'ai pas. Alors, c'est drôle parce que je suis ressuscité, mais je suis mort aussi. Ce qui est un peu logique d'ailleurs, mais il faut les deux. Donc, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, je suis mort aujourd'hui. Mais comment, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Est-ce que je dois me dire, il y avait des sectes chrétiennes, et il y en a encore aujourd'hui, mais dès le début de l'ère de l'Église, il y avait des sectes chrétiennes qui différenciaient, vous savez, c'était le dualisme en réalité, le corps de l'esprit. Donc, je peux faire avec mon corps ce que je veux. Donc ces gens vivaient carrément dans la débauche, en disant, mais non, c'est mon corps qui pêche, mais mon esprit est avec Dieu. Nous savons évidemment que c'est pas la volonté de Dieu, et c'est pas du tout doctrinal. Mais en même temps, il est dit là que nous sommes morts. Donc comment vivre ma mort, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce que je dois simplement laisser Dieu faire? Non, c'est pas Dieu qui va le faire, c'est moi. Et là, verset suivant, c'est verset 5, Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Voyez, c'est vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est au ciel, verset 3. Verset 5. Faites mourir vos membres dans la partie B. Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà, on a la réponse. C'est ça, faire mourir nos membres. C'est-à-dire ne pas accepter cela dans sa vie. La cupidité, l'amour de l'argent, je décide de ne pas l'accepter. Et si je fais le lien avec Philippiens 2 dont je parlais tout à l'heure en intro, Dieu va produire ensuite en moi le vouloir et le faire, c'est-à-dire que je vais expérimenter un détachement vis-à-vis de la cupidité. Mais je vais devoir prendre une décision d'abord en disant « ça, c'est pas conforme à ma position, je prends une décision contre la cupidité ». Dans le même passage, hein, c'est en suivant. Vous avez versets 3 et 4 « nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Je fais mourir mes membres. Donc, je suis mort d'un côté, mais je ne le suis pas d'un autre côté. Et oui, ce sont les deux natures. Ma nouvelle nature est cachée en Christ. Et pour que cette nouvelle nature s'exprime sur la terre ici-bas, pour que la vie de résurrection s'épanouisse en réalité, je dois faire le choix de la mortification, c'est-à-dire de faire mourir les passions qui sont en moi. Alors, pour le dire autrement, c'est prendre sa croix. C'est une autre manière de le dire. Lorsque Jésus nous demande de prendre notre croix, c'est faire mourir nos membres et toutes les passions qui sont dans nos membres, dans notre chair. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes, c'est la position. Ou comment je peux être lumière dans le Seigneur? Si c'est pas dans le Seigneur, je suis pas lumière, du tout, du tout. C'est en Christ que je suis lumière. Donc ça parle de ma position acquise par Jésus-Christ pour moi, et donc position qui m'a été offerte. Partie B du verset, marcher comme des enfants de lumière. Décision. Voyez, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Alors, le mot « comme » est intéressant là, parce que la réalité, c'est imiter Christ. si ma vie est cachée en Christ, si je suis lumière dans le Seigneur, je marche comme lui a marché. Et c'est pour cela que je vais étudier les Écritures, être enseigné, être avec auprès de chrétiens spirituels, les imiter, imiter leur foi. Et c'est comme ça que je vais imiter la position que j'ai déjà. Et en faisant cela, Philippiens chapitre 2, Dieu produira le vouloir et le faire. Autre passage, 1 Thessaloniciens 5, 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, donc c'est la même thématique. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors là, on va s'attarder sur la partie B parce que elle n'a pas l'air claire, mais elle va nous être de l'explication et dans le verset suivant. Mais déjà, vous remarquerez, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ce qui fait que quand on lit ça, on a l'impression que ça parle uniquement du côté spirituel des choses et donc les ténèbres spirituelles. C'est un peu vrai, mais pas uniquement. Parce que le verset 6 nous dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Donc là, c'est intéressant parce que nous avons l'explication ou qu'est-ce que ça consiste, ne pas être de la nuit. Au verset 5, il est dit qu'on est des enfants de lumière, des enfants du jour, et nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres, sous-entendu ceux qui sont de la nuit et des ténèbres, mais veillons et soyons sobres. » Ça signifie que nous sommes des croyants alertes. Nous veillons, nous sommes éveillés, nous ne dormons pas, nous ne sommes pas passifs. Quelqu'un de passif, de feignant, qui est irresponsable, qui ne prend pas ses décisions, qui ne fait rien, qui ne marche pas, pour le faire simple, qui ne marche pas dans le Seigneur, il est de la nuit et des ténèbres. Mais là, il dit, nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Là, ça parle de la maîtrise de soi. Et donc, être du jour, c'est de pas dormir, et donc c'est d'être actif dans la vie spirituelle, d'être éveillé. Donc c'est intéressant parce que à chaque fois on voit cette idée de ne pas se laisser bercer par les promesses de Dieu, de pas se dire ben voilà Dieu a tout accompli et puis maintenant arrive ce qui arrive et on verra bien les opportunités. Non non, des fois Dieu suscite des opportunités. Le témoignage de notre frère tout à l'heure avec le Portugal en est un. Mais il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne qui sont des décisions que nous devons prendre. D'un côté, on rentre dans des œuvres préparées d'avance, mais vous serez d'accord avec moi que entrer dans des œuvres préparées d'avance, ça sous-entend des œuvres. D'accord ? Ça sous-entend de faire des choses, d'avancer. Elles sont préparées d'avance, mais ce sont des œuvres néanmoins. Lorsqu'il n'y a pas d'œuvre humaine, moi j'ai peut-être tort dans l'absolu, mais ça, c'est l'idée qui me vient là. S'il y avait une œuvre que Dieu devait faire sans que moi je fasse quoi que ce soit, j'appellerais ça un miracle. Par exemple, je dois aller à l'église ou à une conférence ou écouter un prédicateur ou un enseignement ou aller à un cours biblique. C'est pas Dieu qui va m'y emmener. C'est moi qui vais rentrer dans une œuvre préparée d'avance. D'accord ? C'est moi qui le fais. Je prends la décision de me déplacer. Si c'est Dieu qui devait tout faire, je suis chez moi et puis quand le cours commence, je suis déjà dans la salle ou au local par transmutation ou je sais pas, en tout cas téléportation. Là, ce serait un miracle. Je fais rien. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Les œuvres préparées d'avance, c'est des choses qui où nous coopérons en réalité. Et dans ce sens-là, je dirais qu'il n'y a pas de miracle. Il peut pas y avoir de coopération avec Dieu si moi je coopère pas. On peut pas être co-ouvrier avec Dieu si on n'œuvre pas. Ouvrier, ça sous-entend faire une œuvre. Et donc c'est ça le point important. C'est-à-dire que l'amour, vous savez, quand on aime quelqu'un. Alors il y a les émotions, on l'aime, mais il y a des actions. L'amour se vérifie par des actes. On œuvre pour aimer. Pourtant, on n'a pas besoin de faire l'œuvre pour vivre ce sentiment. Mais le sentiment ne suffit pas à exprimer l'amour envers l'autre. Et quand je dis une œuvre, c'est même l'œuvre de la bouche. Si je ne le dis pas à la personne, si ma bouche ne remue pas, la personne n'est pas censée savoir que je l'aime. Donc je peux très bien aimer quelqu'un sans faire aucune œuvre, mais il n'y a que moi qui le sais, et donc c'est pas un échange, il n'y a pas de communication, donc je n'aime pas en réalité. Mais en revanche, quand je commence à le confesser, ou quand j'œuvre, je fais des choses, et par mon attitude, et quand je parle d'amour, je parle même dans un sens large, hein, ça peut être l'amour fraternel, l'amour filial, l'amour amical, l'amour envers dans un couple, mais à chaque fois, il y a des œuvres, forcément. Les œuvres ne justifient pas l'amour, dans le sens, l'amour existe en tant que tel. Il n'y a pas besoin des œuvres à faire pour que l'amour existe. Néanmoins, on sent le besoin de faire une œuvre pour l'autre. Et ben, au niveau de la vie avec Dieu, aimer Dieu, c'est aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force. Et là, le mot force est utilisé. C'est une œuvre. Et aimer son prochain comme soi-même, ça consiste à lui faire du bien. Et Jésus le dit très bien d'ailleurs. Quand il parle de la, il raconte la parabole du Samaritain qui est du bon Samaritain. Il parle de la non-œuvre du religieux et puis le Samaritain qui fait une œuvre. Et donc c'est lui qui aime son prochain. Et donc il est rentré dans une œuvre préparée d'avance pour Dieu. Dieu avait permis cette situation pour que l'amour de Dieu s'exprime. Donc nous sommes des enfants de lumière, donc nous ne dormons point. Nous sommes du jour et nous veillons. Autre chose aussi qui est très intéressant, là aussi c'est dans le même passage, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 9 et 10. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 9 et 10, il est dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous, soit que nous veillons, soit que nous dormions, et j'aimerais m'attarder sur la fin là, du verset 10, nous vivions ensemble avec lui. Et le mot ensemble est intéressant parce que quand il dit nous vivions ensemble, on peut associer ensemble avec le Seigneur, c'est-à-dire qu'on va vivre ensemble avec lui, ce qui est vrai, mais aussi c'est nous ensemble. C'est-à-dire que moi je vais vivre avec Christ, je vais être ensemble avec lui, mais je vais être ensemble avec vous. Donc, il nous a ressuscités. Et donc, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Quand il dit nous dormions, là, parce que le verset précédent, on disait que dormir, c'était pas bien. Là, le verbe dormir, c'est dans le sens où on est mort. D'accord? On n'existe plus sur cette terre. Et donc, nous vivions ensemble avec lui. Donc, aujourd'hui, vivre ensemble avec Jésus-Christ, ça signifie quoi? C'est vivre ensemble avec vous. Et c'est pour ça qu'en 1 Thessaloniciens verset 5, chapitre 5, verset 11, c'est-à-dire le verset suivant, Paul dit, c'est pourquoi, donc, hein, afin que nous vivions ensemble avec lui, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a le côté fraternel de la chose, il y a la fraternité corporelle et il y a la bénédiction corporelle. Nous ne sommes pas destinés à la colère, nous avons eu l'acquisition du salut, Christ est mort pour nous, mais soit que nous veillons, c'est-à-dire soit si nous sommes vivants sur cette terre ou si nous dormons, c'est-à-dire soit nous sommes morts, nous vivions ensemble avec lui. Or que je sache, nous on est encore tous sur cette terre, donc on s'exhorte ensemble réciproquement et on s'édifie les uns les autres. Ça signifie que pour vivre ma vie avec Christ, j'ai aussi besoin de la vivre avec vous, avec le corps de Christ. Mais vivre ensemble la vie avec Christ, ça sous-entend l'exhortation, d'où la nécessité de la parole de Dieu au milieu de nous. On s'édifie sur notre très sainte foi et on s'exhorte réciproquement à aller de l'avant, à marcher mieux avec le Seigneur, etc., etc. Donc c'est intéressant de voir que on est ensemble avec Christ et en même temps, ensemble, on doit s'exhorter et donc agir en ce sens. Autre chose aussi, en Hébreux 10:10, il est écrit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés » donc la volonté, c'est dans le sens où Christ s'est offert pour nous « Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Donc quand je lis ce verset, on est sanctifié une fois pour toutes, mis à part. D'accord? On est d'accord. Mais en Jean 17:17, lorsque Jésus a prié et intercédé, il a dit « Il a prononcé cette phrase, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et donc là, on voit une sanctification progressive. Et ça suppose que nous nous placions sous la parole de Dieu pour expérimenter de plus en plus cette sanctification. Donc d'un côté, nous sommes sanctifiés pas par la parole de Dieu, on est sanctifié dans notre position par l'offrande du corps de Jésus-Christ. En revanche, la sanctification progressive, elle l'est par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, ma position est liée à Christ, la parole vivante, et mon progrès spirituel est lié par la vérité de la parole de Dieu. Mais pour ça, j'ai une responsabilité à avoir, c'est de me placer sous la parole de Dieu. Et quand je dis la parole de Dieu, sous une bonne parole, une bonne prédication, de bons enseignements, de bons livres, j'allais dire une bonne Bible, mais la Bible est bonne par nature. Mais voyez, c'est notre décision de lire notre Bible, de méditer la parole, etc. Donc là aussi, on a une apparente contradiction. On peut se dire, mais je suis sanctifié par Christ ou par la parole? Ben, ça dépend de quelle sanctification nous parlons. Pour la position, c'est par l'offrande de Christ. S'agissant de la sanctification progressive, c'est par la parole de Dieu et du coup, c'est ma responsabilité de rentrer dans cette sanctification progressive. Autre point, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, on voit que c'est par lui que nous avons été sagesse, justice, sanctification, rédemption. Mais regardez ce qui est dit ensuite au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc là, nous voyons que d'un côté, il a été fait pour nous sanctification. C'est terminé. Et pourtant, Paul dit aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie, comme si c'était pas fait encore, ou comme si ça devait être fait un peu plus. Et ça, ça nous parle de notre marche avec Dieu. Et là encore, ça parle d'une sanctification progressive. Sous-entendu, mais ça on le sait, mais c'est bien de se le rappeler, Dieu a tout fait pour nous, mais pourtant il continue de faire des choses. Et notamment, il nous sanctifie progressivement. Autre chose aussi qui paraît contradictoire, mais qui, lorsqu'on comprend bien ces choses-là, ça peut nous aider à vivre dans l'humilité. Hébreux 10, 14, il est écrit « Car c'est par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Vous connaissez ce chant hein, « Nous sommes parfaits en lui ben, ». C'est exactement ça. Nous avons été amenés à la perfection. Donc, on aurait tendance à penser, si on est un peu béotien, « Ah ben, je suis sans péché. » D'accord, c'est bon. Et pourtant, on sait que c'est loin d'être le cas. Et regardez ce que Paul dit en Philippiens 3:12. Il écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Donc c'est intéressant parce que d'un côté on a été saisi par Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est l'action de Dieu. C'est lui qui nous a saisis et du coup, par une seule offrande, il nous a amenés à la perfection. Il nous a saisis, il nous a placés en lui et on est maintenant présenté au Père comme si on était parfait. On était purifié par le sang de l'agneau. Mais dans ma marche chrétienne, je dois avoir l'humilité de me dire « Ok, j'ai une position, mais ce serait quand même bien que je puisse dès maintenant en expérimenter un peu plus de cette position. J'ai besoin. Je sais que là, au ciel, je serai sans péché. Aujourd'hui, j'ai mon corps de chair, mais néanmoins, Seigneur, je veux déjà grignoter un peu plus la sanctification. J'en veux un peu plus de ma position. Je veux l'expérimenter ici-bas. » Et c'est ça que Paul veut exprimer. Il dit « J'ai pas encore atteint la perfection. » D'un côté, l'auteur des aux Hébreux dit « Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Mais le croyant, lui, a l'honnêteté de dire en même temps « Je n'ai pas atteint la perfection. » Alors on pourrait se désoler, mais Paul voit en lui une capacité, une responsabilité. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Alors, on le saisira pas complètement. On pourra saisir complètement les choses lorsqu'on sera au ciel, on est bien conscient. Mais, si vous voulez, n'ayons pas peur d'échouer dans ce domaine-là. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, la vie chrétienne peut être frustrante parce qu'on n'est toujours pas parfait en Christ, parfait dans notre expérience, pardon. Donc, quelque part, ces micro-échecs ou ces échecs ou ces grands échecs, quelque part, nous frustrent et du coup, on n'ose pas courir. Vous savez, c'est un peu comme lorsque vous jouez à chat quand vous êtes enfant, vous êtes dans la cour de récréation et puis, il y en a un, il court plus vite que vous. Ce qui fait que... Oui, c'est ça, il court plus vite que vous, ce fait que vous, vous êtes le chat, et vous n'allez pas courir après celui-là pour le toucher, parce qu'il court plus vite que vous. Donc vous allez essayer de courir après quelqu'un hein, qui est à votre portée. Mais imaginez que vous preniez quand même la décision de lui courir après. Peut-être que la première fois, il y a toujours une distance de 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, et vous, voilà, il s'éloigne, il court tellement plus vite. Mais la fois d'après, vous recommencez. Et puis là, vous apercevez que bah, il y a 20 mètres, vous êtes à 20 mètres mais de lui, mais les 20 mètres sont conservés, la distance s'agrandit pas. Ah, vous dites, ah bah tiens, aujourd'hui, c'est un peu mieux qu'hier. Et puis le surlendemain, vous courez toujours après celui qui court plus vite que vous, mais là, vous commencez à le rattraper, et puis vous êtes à 15 mètres. Et peut-être que pendant toute votre scolarité, vous n'arriverez jamais à le toucher, quand vous jouerez à ce jeu. Mais à la fin de votre scolarité, vous serez peut-être plus qu'à un mètre de lui. Alors, on peut voir les choses de deux façons. Soit de se dire, bah voilà, j'ai passé ma scolarité à lui courir après, je l'ai jamais touché, je suis un nul. Ou alors, il y a l'autre vision des choses en disant, j'ai passé toute ma scolarité à lui courir après, au début, il y avait 30 mètres et plus, et à la fin, il y avait plus qu'un mètre. Et ben, c'est un peu ça, la recherche, de la perfection. C'est qu'on n'est pas dupe, on sera jamais ici bas comme Christ, ce sera là-haut. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne prend pas notre responsabilité et qu'on ne court pas? Bah, Paul, lui, courait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Vous voyez, il associe ça à une course, ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Eh ben, mes amis, saisir Christ, c'est toujours lui courir après, sans peut-être le toucher. Mais on se rapproche de plus en plus de lui. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Et c'est en ce sens-là qu'il n'y a pas d'échec. Et qu'il peut y avoir une progression spirituelle. Pour ça, moi, j'aime toujours les défis dans ma vie chrétienne. J'aime prendre des nouveaux défis parce que, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec le physique même. Alors évidemment, si physiquement vous déclinez, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, mais vous ne pouvez pas décliner dans la course après Christ. Ça peut être quelqu'un qui est dans une EHPAD et qui est presque infirme, mais qui va rechercher Dieu dans la prière, parce qu'il a encore toute sa tête. Son corps est peut-être complètement paralysé, mais sa tête est toujours là. Eh ben, il peut encore courir après Christ. Et s'il est là, c'est que Dieu l'a permis. Et donc, il va courir après Christ. C'est une opportunité de rencontrer Christ et de continuer de vivre dans le repos qui nous a été donné. Ce sont des défis, parfois, mais... courons après Christ, pas de fatalisme, pas de « ah bah j'ai 20 ans de vie chrétienne derrière moi, c'est trop tard maintenant » ou alors « j'ai péché trop longtemps ». Non, maintenant on peut courir, dès maintenant on peut courir. Alors on sera peut-être essoufflé au début, mais c'est possible. Autre chose aussi que l'on voit, et je terminerai là-dessus, Philippiens 3,15, c'est toujours dans le domaine d'être parfait, Paul écrit « nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée ». Et si vous avez en quelques points dans notre avis, Dieu vous éclairera. Hébreux 6,1, lui va dire, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, donc les éléments de la parole de Christ, là je ne vais pas faire toute la doctrine de l'Épître aux Hébreux, mais ça parle en fait des doctrines de base concernant le salut. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'on est sauvé et comment on l'est, on ne va plus parler de ça tout le temps, on va passer à autre chose. Il dit, tendons à ce qui est parfait. Vous voyez la sanctification là? Je sais que je suis sauvé, ça c'est sont les éléments de la parole de Christ, mais maintenant on va laisser ça et je vais tendre vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu, etc. etc. Donc d'un côté, Philippiens 3,15 nous dit « nous sommes parfaits » et Hébreux 6,1 nous dit « tendons à ce qui est parfait ». Et c'est comme ça, vous voyez, c'est ça la vie chrétienne, c'est à la fois goûter aux promesses de Dieu, et en même temps, rentrer dans les œuvres de Dieu préparées d'avance en utilisant le libre arbitre que nous avons et donc de prendre notre responsabilité. Allez, je vous en donne un dernier. 1 Jean 4,17. 1 Jean 4,17, il est écrit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc en fait, du point de vue du Père, tel que Christ est, nous le sommes aussi, même si on est toujours dans ce monde. On est sur un pied d'égalité avec Christ, pas en termes de puissance et de gloire, bien entendu, Jésus-Christ est Dieu, mais en termes de perfection, tel il est, nous nous sommes aussi dans ce monde. Mais 1 Jean 2, 6, donc le même apôtre, dans la même épître, va écrire « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Vous voyez ? Donc, tel qu'il est, nous sommes, position, mais pour demeurer en lui, si je dis que je demeure en lui, je dois, responsabilité humaine, je dois marcher comme il a marché lui-même, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'imitation. Nous allons imiter Christ. Alors, Paul parle de courir, Jean parle de marcher, toujours est-il que nous avons des jambes spirituelles à utiliser, et ça c'est notre ressort et notre responsabilité. Que Dieu vous bénisse.